Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les quatre créatrices dont nous allons parler cette semaine sont à leur façon quatre femmes rebelles. À une époque durant laquelle rien ni personne à vrai dire ne leur demandait de créer, elles ont tout simplement suivi leurs désirs et mis toute leur volonté au service de leur art. Elles ont rencontré comme les hommes les affres de la création, mais elles ont eu en plus à franchir une barrière supplémentaire. Et cette barrière, la plus haute peut-être, est paradoxalement venue de leur entourage le plus proche, car c'est le mari, le frère, le compagnon, l'amant qui ont diminué leur œuvre ou qui lui ont fait de l'ombre. De ces femmes cachées par leurs hommes, nous parlons jusqu'à jeudi dans la Compagnie des œuvres. Jeudi où nous évoquerons le destin de Marie Shelley, l'autrice du roman Frankenstein, longtemps restée dans l'ombre de son mari, le poète romantique Percy Shelley. La veille, mercredi, nous nous serons penchés sur le cas de l'artiste Suzanne Duchamp, la plus jeune sœur de Marcel Duchamp, tandis que demain nous irons voir comment Flaubert n'a pas tellement bien traité sa maîtresse, la poétesse Louise Collet. Et aujourd'hui ? Pour évoquer Catherine Pozzi dans l'ombre de Paul Valéry et plus généralement pour parler de ces femmes cachées ou empêchées, nous sommes avec Hélène Morel-Indard, professeure de littérature à l'université François Rabelais de Tours, spécialiste de la question du plagiat en littérature. Elle vient de faire paraître aux éditions Classique Garnier le volume collectif intitulé « Femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes ». Un volume qui montre que, c'est le moins qu'on puisse dire, l'histoire littéraire laisse peu de place aux femmes, malgré Germaine de Staël, malgré George Sand, malgré aussi Virginia Woolf, et son célèbre manifeste, Une chambre à soi, dont on écoute tout de suite un passage.
Je vous ai dit au cours de cette conférence que Shakespeare avait une sœur, mais n'allez pas à sa recherche dans la vie du poète. Cette sœur de Shakespeare mourut jeune. Hélas, elle n'écrivit jamais le moindre mot. Elle est enterrée là où les omnibus s'arrêtent aujourd'hui en face de l'Elephant and Castle. Or, j'ai la conviction que cette poétesse, qui n'a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. Elle vit en vous et en moi. Et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit, car les grands poètes ne meurent pas. Ils sont des présences éternelles. Ils attendent seulement l'occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il est à présent en votre pouvoir de la donner à la sœur de Shakespeare. Car voici ma conviction, si nous avons toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous seuls, si nous acquérons la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous parvenons un peu à échapper au salon commun et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité, alors l'occasion se présentera pour la poétesse morte qui fut la sœur de Shakespeare de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer.
Texte interprété par Guillaume Gallienne. Bonjour Hélène Morel-Indard.
Bonjour. Merci.
78 ans après la mort de Virginia Woolf, 70 ans après Simone de Beauvoir qui disait en 1949 dans Le Deuxième Sexe que la femme libre était seulement en train de naître. Avez-vous le sentiment que les femmes ont aujourd'hui une chambre à elles pour écrire et pour créer?
Vous avez commencé par cette superbe page de Virginia Woolf. C'est d'une d'une sensibilité, d'une grandeur, c'est visionnaire, enfin, on en pleure hein, quand on entend ça. Et oui, la question qu'on peut se poser, que je me suis posée, oui, les choses ont changé, bien sûr. La preuve, c'est que vous m'avez invité aujourd'hui et je vous en remercie infiniment.
La preuve, c'est que vous avez écrit le livre.
Voilà, le livre est là. Et ce sont des femmes et des hommes qui sont auteurs de ce livre collectif, de ce travail collectif. Les choses ont changé, mais elles doivent changer encore. Et quand j'écoute Virginia Woolf, qui est notre éclaireur, notre éclaireuse, je devrais dire, eh bien, voilà, elle parle effectivement de cette chambre à soi. Qu'est-ce que c'est que la chambre à soi ? C'est déjà pour la femme une pièce à elle. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ont tardé à avoir leur bureau. Le bureau, c'est la pièce des hommes, la pièce des pères, où l'on devine le père travailler, construire une œuvre. C'était le cas de Catherine Pozzi, d'ailleurs. Elle était dans ce grand appartement de la place Vendôme. Son père, le grand chirurgien Samuel,
qui était une célébrité,
qui était une célébrité et qu'elle admirait, qui l'a fascinée, il n'était pas au même étage que sa fille Catherine Pozzi. Elle était, comme elle dit dans son autobiographie cryptée, Agnès. Voilà, tout se passait, c'est ce qu'elle écrit. Tout se passait 56 marches en bas, au rez-de-chaussée. Et on voit à quel point, évidemment, les femmes ont gagné beaucoup, puisque le bureau est un lieu familier des femmes maintenant. Mais alors la deuxième étape, après le lieu propre au travail, c'était l'indépendance financière. Et la troisième étape, dont ne parle pas du tout Virginia Woolf, alors qu'elle en a terriblement souffert, et combien de femmes, c'est un corps à soi. Et c'est vraiment, je pense, pour parodier Virginia Woolf avec tout le respect que j'ai pour elle, ça serait peut-être un titre d'œuvre qu'elle écrirait aujourd'hui si elle revenait parmi nous. Ça serait plus une chambre à soi, ça serait un corps à soi. Parce que c'est quand même ça qui a fondamentalement changé le sort des femmes. Avec la contraception, bien sûr, et l'IVG.
Alors, on va parler de Catherine Pozzi en particulier avec vous, puisqu'on aura l'occasion d'aborder aussi d'autres femmes. Durant cette semaine, il y en a certaines dont on ne pourra pas parler. Je voudrais quand même les citer ici. Puis, si vous voulez en dire un mot, parce qu'elles sont aussi dans le recueil collectif que vous avez initié et dirigé. C'est Claire de Duras,
oui.
La grande amie de Chateaubriand.
Oui, femme de l'ombre, parce que c'est la chère sœur. Alors qu'elle a une œuvre, c'est une figure féminine, effectivement, tout à fait attachante aussi.
Il y a aussi, alors ça c'est peut-être plus étonnant, Marguerite Yourcenar.
Oui.
Pourquoi fait-elle partie des femmes cachées ? Parce qu'elle ne paraît pas tellement quand même cachée par sa compagne.
Tout à fait. En réalité, ce que Bruno Blankmann nous avait expliqué, c'est le rôle que sa compagne, donc Grace Frick, a joué pour la construction du mythe qu'est devenue Marguerite Yourcenar. Et puis cette femme a quand même été toujours, enfin pendant très longtemps, à ses côtés, comme lectrice de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, comme traductrice, comme conseillère.
C'est Marguerite Yourcenar qui cache Grace Frick en l'occurrence.
La boutade est intéressante. Je me suis posé la question aussi. Non, c'était Marguerite Yourcenar sans doute qui avait le génie, mais la figure d'auteur de Marguerite Yourcenar, elle est quand même sans doute en partie construite par tout ce travail de la seconde, Grace me seconde, disait-elle.
Alors on va parler donc de Catherine Pozzi. Vous avez intitulé votre texte « La muse trahie » de Paul Valéry. Et c'est intéressant parce que vous êtes spécialiste au départ de la question du plagiat. Et c'est en effet cette question-là qui se pose dans la relation entre Paul Valéry et Catherine Pozzi. Était-elle une muse ou Paul Valéry a-t-il plagié le travail de sa maîtresse ? Avant d'en parler réellement, je vous propose d'écouter d'écouter un poème de Catherine Pozzi. Celui-là s'appelle Ave.
Ave, très haut amour. S'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais, En quel soleil était votre demeure? En quel passé votre temps? En quelle heure je vous aimais? Très haut amour.
Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour. En quel destin vous traciez mon histoire? En quel sommeil se voyait votre gloire? Ô mon séjour! Quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi par l'univers en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, de cendres aux cieux jusqu'au néant vané, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image, de mille corps emportés par le jour, vive unité sans nom et sans visage. Cœur de l'esprit, au centre du mirage, très haut amour.
Poème publié en 1929, poème qui avance comme ça, en cadence, jusqu'à la fin avec ce côté très musical. Est-ce que c'est caractéristique de la façon de Catherine Pozzi? Est-ce qu'on reconnaît Catherine Pozzi dans ce poème?
Oui, on la reconnaît dans toute sa finesse, sa subtilité, cette espèce aussi d'exaltation, ce lyrisme qui élève jusqu'à l'infini.
Ça, c'était une femme exaltée. D'ailleurs, on va lui reprocher son exaltation.
Oui, alors voilà, les mauvais procès à Catherine Pozzi, comme à beaucoup de femmes étouffées d'ailleurs, un mauvais caractère, hystérique. C'est vrai qu'on finit par devenir hystérique et avoir mauvais caractère quand on sent son génie étouffé. Et je crois que là, c'est un très très bon exemple. Vous me posiez la question à l'instant, est-ce que Catherine Pozzi a été plagiée par Valérie? Alors, je vais rassurer tout de suite les
auditeurs fébriles, amoureux de Valérie.
Évidemment, évidemment. Valérie était un génie, il se nourrissait de tout ce qu'il trouvait et il le sublimait. Cela dit, Catherine Pozzi a été trahi par son amant, le grand Paul Valéry, dans la mesure où elle était dans une sorte d'aspiration à une fusion qui n'était pas seulement amoureuse, mais intellectuelle et plus encore spirituelle. Paul Valéry s'est nourri de cette puissance de la pensée de Catherine Pozzi. Il allait la voir pendant 8 ans, qu'a duré cette relation amoureuse et ce partage intellectuel et spirituel. Il allait la voir très très souvent, il se voyait tous les jours, par période, deux fois par jour, et il était avide d'écouter en fait le génie de Catherine Pozzi.
C'est de là que naissait justement leur amour exceptionnel, d'une compréhension de l'un pour l'autre.
C'est ça.
Incroyable.
Oui, incroyable. Catherine Pozzi le dit dans son journal, nos deux têtes sont pareilles. Et Valérie fait écho à cet enthousiasme, à cette reconnaissance d'une sorte de gémilité, puisqu'il dit « nos pensées sont étrangement pareilles ». Donc il le reconnaît, mais il y a un moment où, évidemment, les chemins s'éloignent l'un de l'autre. Catherine Pozzi, c'est une pure, elle est en quête d'absolu, elle est déçue par l'opportunisme de Valérie, le mondain, le 4 thés par jour, et voilà ce qui les sépare, qui fait que Catherine Pozzi finit par se convaincre, et je crois que c'est en partie vrai, que Valérie a utilisé ses propres travaux.
Mais alors, c'est la question, et vous employez le mot de muse, un mot qui est extrêmement important, parce que finalement, dans quelle mesure y a-t-il plagiat, dans quelle mesure y a-t-il inspiration réciproque, finalement, c'est très difficile de trancher la question.
Oui, là, ce que dit Catherine Pozzi dans son journal, c'est que elle a retrouvé dans les cahiers de Valérie, vous savez qu'ils partageaient leurs cahiers réciproques, Catherine Pozzi a noté les cahiers de Valérie, hein, puisqu'elle a même eu la tâche de les classer, de les ordonner.
Voilà, ce que lui n'aurait pas fait pour elle.
Absolument, tout à fait. Et ce que Valérie faisait pour elle, et là je dois dire que c'est superbe, ce qu'il a fait, il dessinait. Et quand on voit les pages d'origine hein, du journal de Catherine Pozzi, on est impressionné effectivement par le talent de Valérie. Mais voilà, donc il y avait une réciprocité, il y avait une communion, un échange intellectuel. Ce que Catherine Pozzi, malheureusement, un jour a constaté, c'est qu'elle a retrouvé dans, par exemple, elle donne un exemple précis dans la préface que Paul Valéry avait fait à Edgar Allan Poe, elle a retrouvé ses idées et même, pire, je dirais, elle parle de décalque pour certaines pages de son autobiographie cryptée Agnès, qu'elle a fini par publier contre sa volonté, parce qu'elle répugnait à voir son, je la cite, cœur imprimé. Vous voyez, c'était une femme totalement sincère et authentique. Et elle a fini par accepter de publier cette autobiographie qui s'intitule Agnès parce que elle s'est rendue compte que Valérie, reprenait des idées, reprenait des passages. Alors, sincèrement, il n'y a pas eu une analyse stylistique qui permette de prouver, d'évaluer, si vous voulez, la somme de ces emprunts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu une influence qui est allée très loin.
Et puis, ce qui est sûr aussi, c'est que toute la garde rapprochée de Paul Valéry, au fur et à mesure des décennies, s'est employée finalement à minimiser l'influence de cette femme sur son œuvre. Et à la considérer comme étant justement hystérique, peut-être un peu trop fantasque aussi.
Mais surtout, il fallait pas qu'elle existe. C'était la maîtresse de Paul Valéry. Et la famille Valéry, et Valéry le premier, tenait à ce que cette relation ne soit pas trop voyante.
Donc il y a eu le caviardage aussi.
Oui. Absolument. Lorsque les cahiers ont été publiés, certaines feuilles trop personnelles, sans doute qui faisaient référence à cette relation entre Pozzi et Valérie, ont été supprimées. Les annotations aussi de Catherine Pozzi n'ont pas fait l'objet de notes de bas de page dans une première édition. Voilà, donc elle s'est vraiment sentie totalement trahie à la fois par le clan Valéry et par Valéry lui-même, ce qui était le pire. Et en fait, ce qui l'affligeait, ce n'était pas tellement les emprunts qu'il pouvait faire à son œuvre. Au contraire, elle ne considérait qu'elle-même n'avait emprunté son œuvre qu'à Dieu. Donc, de quel droit aurait-elle empêché les emprunts qu'on pouvait lui faire? Non, ce qui l'affligeait terriblement, c'était de voir son grand amour, pour paraphraser le poème que vous nous avez fait écouter tout à l'heure, voir son grand amour descendre bien bas, dans finalement une forme de trahison, de parasitisme.
Des œuvres sur France Culture. Alors on va rendre justice à Catherine Pozzi avec vous Hélène Morel-Indard tout au long de cette émission en racontant sa vie à elle, parce que il faut aussi qu'on la connaisse un petit peu mieux. Elle est née le 13 juillet 1882. 1882, c'est une date qui est un petit peu ironique pour Catherine Pozzi comme année de naissance, parce que c'est l'année où le docteur Koch identifie le bacille de la tuberculose, et c'est une maladie qui va marquer sa vie et dont elle va d'ailleurs mourir.
Oui, le journal nous rend compte au jour le jour de la souffrance physique que supporte Catherine Pozzi. C'est vrai que cette tuberculose l'affaiblit terriblement. Et la lecture du journal est extrêmement... renforce énormément le lecteur, parce que on voit à quel point cette femme, à un moment donné par exemple, elle dit « Oh, voilà comme j'ai réussi à sauter du tram alors qu'il prenait de la vitesse mmh. !» Et elle parle à son corps, elle lui dit « Et pourtant, tu te rends compte, une fois qu'on est rentré à la maison, à quel point tu es affaibli, délabré ?» Elle raconte aussi comment le matin, elle peine à émerger de cet affaiblissement total auquel la condamne la tuberculose. Et elle lui dit « Oui, mais je t'ai mis une robe, mon corps, et cela t'a consolé. Mmh. » C'est vraiment une œuvre, le journal de Catherine Pozzi, qui aide.
Alors, c'est une œuvre de consolation
oui, pour
aussi,
elle, pour le lecteur.
D'autoconsolation, qu'elle commence finalement très tôt, puisqu'elle commence à écrire son journal à l'âge de 10 ans. Et il y a déjà cette tonalité-là. Il s'agit déjà, finalement, de se consoler soi-même.
De se consoler soi-même, oui, parce que, si vous voulez, elle a une très haute idée de sa personne. Dans son autobiographie cryptée, par exemple, on en a parlé à l'instant, Agnès, elle met deux tableaux. En vis-à-vis, dans une page, l'avant et l'après. Alors, elle, dans le premier tableau, l'avant, c'est d'où elle part, son incapacité à jouer au tennis, sa difficulté à trouver ses mots. Et puis, dans le tableau d'après, on a toutes les performances dont elle rêve. Et que ce soit sur le plan musical, intellectuel, sportif, elle a vraiment un programme de vie. Elle est portée par cela jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne désarme jamais. Et c'est elle d'ailleurs qui met fin à sa relation avec Paul Valéry. Alors même qu'elle est totalement affaiblie.
Et c'est assez incroyable de voir à quel point cet état d'esprit finalement arrive très tôt, puisque on lit justement dans son journal de petite fille cette citation que je vais vous faire. Je voudrais que ces livres, donc ces livres, c'est les journaux qu'elle écrit. Je voudrais que ces livres restent parce que je veux qu'on connaisse mieux les enfants. On ne les connaît pas. La plupart voient en eux de petits êtres frivoles, incapables de penser. Je veux dire indifférent à combien un enfant peut souffrir, combien une jeune fille peut être seule. Et là, avec cette citation, on comprend immédiatement à quel point il y a une forme de génie extrêmement précoce chez Catherine Pozzi, et déjà cette espèce de souffrance sourde qu'elle ne va pas pouvoir réellement surmonter.
Oui, sauf par moments où elle sent très bien qu'elle est meilleure que toutes et que tous dans les salons.
Mais c'est presque justement là.
Elle le sent, là, elle le dit.
Ça ajoute à la souffrance, voilà, finalement, de savoir qu'on est meilleur et qu'on n'est pas reconnu.
Tout à fait. Et même à l'égard de Paul Valéry, qu'elle admire, et à un moment, elle dit que son esprit ne fait pas la moitié du sien, mais voilà, elle alterne continuellement entre cette espèce de juste évaluation de son génie, je ne vais pas dire de mégalomanie, de juste évaluation de son génie, et puis de dévalorisation. Et là, on retrouve la question de la femme. Pourquoi Catherine Pozzi n'a pas confiance en elle? Et la preuve, c'est que lorsqu'elle publie Agnès, elle ne signe pas de son nom. Elle signe, donc ça reste anonyme, elle signe d'initiales qui ne sont même pas les siennes, CK, c'est pour Catherine, et K pour Karine. Karine, en grec, la grâce, était le surnom voilà que lui donnait Paul Valéry. CK, c'est donc l'effacement de deux choses essentielles, l'effacement de son patronyme, le père, qui était 56 marches, vous en souvenez, en dessous, et effacement du sexe, puisqu'on a cru que c'était Valéry.
Alors, Anna de Noailles, quand même, son amie, à Catherine Pozzi, avait détecté ça, que c'était, que ça devait être un texte d'elle.
Oui, Mais malgré tout, elle répugnait en tant que personne à apparaître comme auteur. Mmh. C'était une idéaliste, et pour elle, seule l'œuvre comptait. Et c'est ce qui la choquait chez Paul Valéry, où il y avait cette recherche de la gloire, la course à l'Académie française, les mondanités. Voilà, Catherine Pozzi, c'est pour ça que j'aime beaucoup que vous ayez rebaptisé la compagnie des œuvres. Ça m'a vraiment frappée quand vous êtes passé des auteurs aux œuvres. Catherine Pozzi doit jubiler. Voilà, aujourd'hui.
On parle quand même des auteurs.
Eh bien, voilà, elle considérait que seule l'œuvre comptait. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, elle avait répugné à publier ses œuvres et à ne pas les signer.
Et à fréquenter des salons qu'elle avait fréquentés enfant, parce que oui. Ce milieu-là dans lequel elle naît, avec sa mère qui a un salon Place Vendôme où défilent des figures quand même oui. très importantes de l'époque, notamment Jean Lorrain qui, paraît-il, a écrit un conte pour Catherine, mais aussi Sarah Bernard quand même, et puis d'autres personnages, José Maria de Heredia. Donc il y a quand même une enfance très choyée dans un milieu extrêmement privilégié.
Oui, bien sûr. Elle a vu défiler dans le salon de son père toutes ces grandes figures de l'époque. Hein. Et je suppose que c'est là, hein, c'est le terreau hein, qui aussi lui a donné cette envie de se cultiver. Mais elle était autodidacte.
Elle était autodidacte et on dira qu'elle a eu son bac finalement très tard, qu'elle est repartie finalement faire des études et elle a elle-même fait cet effort très très grand. Finalement, elle explique que c'est un effort pour elle qui a été 10 fois plus grand que pour Paul Valéry, que de retourner finalement à l'université.
Oui, et quelle humilité de sa part. Essayer d'avoir le baccalauréat, tout simplement pourquoi ? C'était pas du tout le diplôme qui l'intéressait. Mais sans baccalauréat, elle ne pouvait pas assister au cours de la Sorbonne, au cours du Collège de France.
En 92, Valéry a voulu dominer l'affect, il a voulu se faire l'ennemi du tendre, alors qu'en fait c'est un homme travaillé par un besoin de tendresse et de sensualité extrêmement profond. Et donc il y a eu son mariage en 1900, qui a été un mariage beaucoup moins raté qu'on ne le dit parfois, n'est-ce pas ? Je crois qu'il y avait une entente très profonde avec sa femme, c'était un peu plus sans doute, ou beaucoup plus qu'un simple mariage de raison. Mais il y a eu la rencontre de Catherine Pozzi en 1920, et là, si vous voulez, toutes les barrières que Valéry avait voulu construire pour se protéger, toutes ces barrières ont été subitement détruites. Et jusqu'à sa mort, donc pendant 25 ans, il y aura à chaque fois le besoin de renouveler cette tendresse. C'est-à-dire quand il se séparera de Catherine Pozzi, il faudra qu'il rencontre d'autres femmes parce que ce besoin s'est désormais libéré en lui. Mais en même temps, c'est autre chose, si vous voulez, qu'un simple besoin banalement amoureux. Il y a un rapport tout à fait étonnant, en particulier avec Catherine, parce que Catherine, c'est un rapport, en effet, entre Narcisse et sa pareille, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Donc, c'est le même et l'autre qui se trouvent dans une sorte d'état de fusion.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Un rapport entre Narcisse et son pareil. Est-ce qu'on n'a pas là, ici, une clé tout de même de la relation Catherine Pozzi-Paul Valéry ?
Très belle expression, en effet. C'est vrai que l'un était pour l'autre le miroir de l'autre, peut-être. C'était plus vrai. Je ne sais pas si c'était vraiment une relation très équilibrée. Non, je ne crois pas, puisque quelques mois ont suffi pour que Catherine Pozzi déchante et sente bien qu'effectivement la balance penchait du côté de Paul Valéry. Ce qui est très juste, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'une relation amoureuse. Hein. Il y a toute une dimension philosophique hein, dans cette relation de ces deux êtres. cette dimension philosophique, elle est présente dans toutes les œuvres de Catherine Pozzi. On parle beaucoup du journal, mais elle a aussi écrit un essai philosophique, le De Libertate, dès 1915. Hein. C'était déjà un travail qu'elle menait d'arrache-pied.
Là, il y a du plagiat.
Alors bien sûr. Alors ça, c'est la grande déception de Catherine Pozzi, c'est de voir que sont des Libertate sur lequel Valéry ne s'est jamais prononcé. Il a gardé le silence, il ne l'a jamais encouragé à continuer.
Alors qu'il l'a lu, évidemment.
Alors même qu'il l'a lu et qu'elle lui a donné à lire, parce qu'elle le considérait comme un maître, même si après elle dit « je n'ai jamais été son élève, il n'a jamais été mon maître ». Malgré tout, elle l'admirait à tel point qu'effectivement, elle attendait de lui son verdict, son jugement. Ça allait jusque-là, au-delà même des discussions qu'ils pouvaient avoir ensemble. Et elle n'a pas été encouragée. Et ce silence, pour elle, a été terrible. Et le premier biographe de Catherine Pozzi, Lawrence Joseph, a très justement dit, je crois, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la rencontre de Catherine Pozzi avec Valéry ne l'a pas aidé dans son travail de création, mais l'a au contraire freiné. Parce qu'à partir du moment où elle lui fait lire le De Libertate, qui va être publié ensuite, après sa mort, par son fils, sous le nom de Peau d'âme, très très beau titre, eh bien, quand elle fait lire à Valéry ce De Libertate, elle n'a aucun mot d'encouragement. Donc, elle perd confiance en elle, on a vu pourquoi déjà tout à l'heure, elle perd confiance en elle, et elle se dit, après tout, je vais me vouer à l'œuvre de mon grand amour, de mon double.
Et c'est là où on touche vraiment à ce que disait dans la première lecture Virginia Woolf. C'est-à-dire qu'on touche presque à la question de la confiance en soi,
oui,
qui est nécessaire à tout créateur au départ. Et de fait, c'est vraiment ce qui a manqué à Catherine Pozzi et ce que Paul Valéry a peut-être sciemment quand même essayé de détruire. Alors là, on va un peu plus loin dans l'interprétation, mais est-ce que c'est votre sentiment,
Hélène Morel-Lindard? Je pense que c'est plus compliqué que ça, plus complexe. Je pense que hommes et femmes, nous avons tous été victimes de cette culture qui à domination masculine, et vous voyez que là je fais référence à Bourdieu. Dans la domination masculine, il écrit justement au sujet de cette ascendant de l'homme sur la femme, qui suffit de constater quand on lit les histoires littéraires, il écrit que c'est une violence douce, invisible pour les victimes elles-mêmes, et je dirais même plus, pour les bourreaux eux-mêmes.
Et c'est en l'occurrence ce qui s'est passé probablement pour Paul Valéry.
N'ayant absolument plus aucun espoir, n'ayant absolument plus aucun espoir, ne comptant même plus sur l'intelligence, comprenant que la gloire est pour les heureux, empêché de vivre de ce corps foudroyé, les amis étant morts, la science utile étant pour les vivants, objet d'étonnement à ceux qui passent, scandale à ceux qui se contentent, assise sans presque respirer, elle travaille une rose au cœur.
Avant la relation avec Paul Valéry, il y avait eu un autre homme dans la vie de Catherine Pozzi, c'est Édouard Bourdet. Je crois qu'il faut raconter quand même ce mariage d'un jeune homme, parce que lui avait quelques années de moins et il était très éperdu finalement de Catherine Pozzi. Quand il se marie, elle a 26 ans déjà, lui 19. Et Édouard Bourdet, c'est le dramaturge qu'on connaît, qui va devenir une célébrité de son temps.
Oui, elle en parle beaucoup aussi dans son journal. Le lien demeure, puisqu'elle appelle Bourdet dans son journal. C'est vrai que elle raconte au sujet de Claude.
Le fils qu'ils ont eu ensemble.
Fils, voilà, le fils aimé, le fils qui a beaucoup œuvré pour faire connaître l'œuvre de sa mère.
Qui a aussi été un grand résistant par ailleurs, un grand journaliste et un homme politique de gauche.
Elle raconte dans son journal comment Claude part de chez elle, semblable à elle-même. Un fils éclairé, pur, et comment il revient à elle après avoir vu son père comme un peu dénaturé. Voilà. Donc, je crois qu'en fait, ce sont deux tempéraments inconciliables. Enfin, après tout, qu'est-ce qui était conciliable avec Catherine Pozzi?
Alors ça, Édouard Bourdet s'en rend un petit peu compte. Mais bon, il faut dire qu'il est très jeune, mais il pense qu'il va pouvoir changer finalement, un petit peu modifier sa femme, qu'il trouve un petit peu fantasque, et qu'il va pouvoir l'amadouer. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Je crois que dans le journal, il y a des notations au sujet du voyage de noces qui se passe apparemment très très mal.
Voilà. Alors, il pensait effectivement la modeler, la raisonner. Encore un Pygmalion, c'est ça, c'est la figure du Pygmalion qui n'a pas fait autre chose finalement que l'étouffer. Catherine Pozzi n'avait pas le choix. Elle a eu le courage effectivement de demander le divorce à une époque où c'était plutôt difficile. C'est cet esprit de Catherine Pozzi ne pouvait pas effectivement se contenter d'un mariage raisonnable. Mmh. Et quand on voit l'essai philosophique qu'elle a écrit, donc Peau d'âme, on se rend compte à quel point on est face à un esprit libre.
Qu'est-ce qu'elle dit dans cet essai? Alors c'est difficile de tout résumer, bien sûr, mais
c'est vraiment l'idée fondatrice, comme je disais tout à l'heure, qu'on retrouve aussi bien dans Agnès, dans le journal, dans le recueil de poèmes aussi. C'est vraiment une aspiration, une conviction que la matérialité peut se transcender. C'est en fait, tout peut prendre une dimension spirituelle.
C'était une femme avant tout spirituelle?
Oui, bien sûr.
Mystique même?
Oui. Alors, mystique, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une connotation un petit peu négative d'illuminée. Non, elle n'était pas illuminée, mais c'est une mystique. Alors, elle était quand même très proche de la pensée de Bergson, par exemple, sur la dimension spirituelle de la matérialité. C'est pour ça que cette relation amoureuse avec Valérie, elle allait bien au-delà.
C'était d'abord, en tout cas, surtout pour elle, une dimension intellectuelle et spirituelle. Oui. C'était vraiment l'union de deux âmes. Et c'est cette exigence aussi dans l'amour qui probablement a été pour elle, a rendu les choses aussi beaucoup plus difficiles à accepter. Et notamment ce qu'elle considérait comme étant ce qui était de la mesquinerie d'ailleurs.
Oui, cette recherche de l'absolu est de toute façon vouée à l'échec, évidemment. Elle n'y a pas à échapper. Je reviens sur le titre de cet essai philosophique qui s'intitule « Peau d'âme ». Vous voyez, là vraiment, on a le côté charnel avec la peau, et puis l'âme, c'est la peau de l'âme. Il y avait un titre précédent, le titre intermédiaire entre le « De libertate » et « Peau d'âme », c'était « Corps d'âme ». Voilà, donc cette philosophie, évidemment, elle est complexe parce que il y avait une approche physique, de science exacte chez Catherine Pozzi. Mais pour simplifier les choses, on peut quand même considérer que c'était ça l'essentiel. C'était la dimension spirituelle de toute forme de matérialité.
Alors c'est un essai qui n'a paru qu'en 1935, c'est-à-dire un an après sa mort, le 3 décembre 1934. De la maladie, la tuberculose dont on a déjà parlé. Il y a quelque chose de très tragique et puis finalement de très symptomatique aussi dans l'apparition post-mortem de cet essai majeur.
Oui, un essai dont il reste finalement peu de pages par rapport à ce qu'il en était de nombreuses pages ont été perdues et c'est tout de même suffisant, je dirais, pour se rendre compte de la liberté de pensée et d'expression de cette femme, puisque c'est un essai philosophique qui se nourrit de toute une culture mathématique, physique,
psychologique aussi.
Psychologique.
William James est l'une des références les plus importantes.
Exactement. Voilà, donc si vous voulez, il y a toute une construction intellectuelle extrêmement élaborée, mais alors sous une forme extrêmement fantaisiste. Par moments, c'est très drôle. Il y a même des mots, un style très familier, des invectives, des passages en majuscule, complètement en majuscule.
Qui a beaucoup étonné aussi dans la forme. Et c'est peut-être ça qui rajoutait à la difficulté d'être une femme. C'est qu'en plus, elle innovait. Dans la forme.
Comment la prendre au sérieux? C'est vrai que aujourd'hui, si on dit mais si Catherine Pozzi a écrit un essai philosophique et que on regarde le texte, il faut vraiment lui faire totalement confiance pour lire comme elle voulait nous l'entendre toute cette profondeur et en même temps la revendication d'une certaine légèreté. Puisque c'était toujours l'alliance des contraires, l'infini et l'illimité, l'éternité et l'instant, la matérialité et la spiritualité. Et dans la forme même, elle touche aux registres les plus extrêmes.
Ne lirez-vous jamais ceci? Vivrai-je pour le déchirer, hélas, demain? Je sens le dur obstacle, le mur haut dressé, comment, pourquoi? Je ne veux plus vous subir. Ayez pitié de moi. Je ne me suis pas marchandée en venant vers vous. Je n'ai pas fait des sourires de prudence. J'ai été brave. Je vous ai donné d'un coup le secret de ma pensée, ma raison de ne pas mourir. Il n'est pas possible de vous aimer comme je vous aime, avec un regard si clair, si profond sur l'essence de vous, si fraternel, si tendre, sans que vous n'en ressentiez pas un jour la douceur. J'accepterai que vous me refusiez parce que je crois en vous. Si ce n'était cela, je vous détruirais si vite en mon âme que vous n'y laisseriez pas un reflet humain.
Des œuvres sur France Culture avec cet extrait du journal de Catherine Pozzi du 21 juillet 1920 lu par Caroline Claire et qui vous inspire une citation, Hélène Morel-Indard.
Oui, c'est vrai que on voit bien là l'exaspération de Catherine Pozzi, elle est sans mesure, évidemment, c'est ce qui fait son génie et cet extrait m'a rappelé une citation d'elle, « Donnez ma moelle qui sera mangée sous un autre nom ». Voilà ce qu'elle a écrit lorsqu'elle a considéré que le De Libertate, donc son essai philosophique, qu'elle avait commencé bien avant la rencontre avec Paul Valéry en 1920, se retrouvait dans les cahiers de Paul Valéry. Mmh.
Alors on peut se demander ce qui restera de Catherine Pozzi aujourd'hui. Est-ce que c'est justement cet essai, est-ce que c'est tout ce qui concerne la philosophie qui peut-être a été justement ingérée par d'autres? Et c'est là où c'est assez tragique, c'est que finalement sa philosophie elle a été récupérée et elle existe probablement dans des tas de travaux qui ont succédé. Est-ce que c'est ça qui reste selon vous ou est-ce que c'est autre chose, la poésie par exemple?
Oui, et c'est ce que j'allais répondre. Le recueil de poésie, ce qui reste aujourd'hui, qui est bien connu, c'est son journal. le travail de Claire Polan, travail d'éditrice hein, de son journal, a enfin fait la clarté hein, sur le génie de Catherine.
Est-ce qu'elle souhaitait
cette force d'âme
le publier de son vivant?
Est-ce qu'elle souhaitait le publier? C'était quand même une œuvre très intime.
Il y avait une serrure même pour protéger certains
décarnés. Oui, c'est vrai. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, elle serait tout à fait d'accord avec cette publication. Et ce qui n'est pas connu, effectivement, c'est tout le reste. Hein. Agnès, c'est vrai que c'est une autobiographie fictive qui est très brève.
Alors là, hein, qu'est-ce qui ressemble à Agnès dans l'œuvre de Paul Valéry?
Ah, ben c'est toujours cette espèce de d'idéalisation, de beauté idéale, hein, d'amour absolu. Agnès, c'est cette jeune fille qui écrit, en fait, qui s'adresse au grand ami avant même qu'elle ne le connaisse. Donc c'est tout à fait à la fois paradoxal et complètement cohérent. Hein, c'est-à-dire que Agnès s'adresse déjà à un personnage qui est masqué, qui est anonyme, qui échappe à toute forme d'identité. Et c'est là, de la part de Catherine Pozzi, une forme de projection, hein, puisque quand elle publie, elle est elle-même très réticente à apparaître comme un être fini, qu'on puisse identifier, voilà, comme une personne particulière. Tout devait prendre, en fait, une dimension suffisamment, pas abstraite, mais peut-être éthérée, pour être universelle, voilà.
Et là où il y a encore une petite perversité supplémentaire, peut-être chez Paul Valéry, sur lequel on tape un petit peu aujourd'hui, c'est qu'il met dans ses notes, je crois, « Oh, je vais écrire ça à la manière d'Agnès », pour finalement que les personnes qui tomberaient sur ces textes se disent « Ah oui, en effet, il y a des ressemblances, mais il en était conscient et c'est quand même lui, à la fin, qui est l'écrivain principal ».
Ouais, un petit coup dans le dos, là encore, de Catherine Pozzi, quand elle découvre dans les cahiers de son amant qu'il fait référence à Agnès, voilà de quoi l'inciter à publier très vite. Mais comme elle veut rester anonyme, hein, eh bien, elle passe par Valéry pour faire publier l'autobiographie, si bien que...
Ça, c'est un peu une erreur de sa part,
mais
bon,
bien
elle
sûr,
n'y peut rien.
C'est une mystificatrice malgré elle. Au bout du compte, eh bien, les contemporains croient que c'est Valéry qui a écrit Agnès, et pire, on imagine même que ça puisse être sa fille, parce que Agathe, c'est la même initiale que Agnès. Là, la pauvre Catherine, vraiment, elle souffre.
Allez, écoute, un nouveau poème de Catherine Pozzi, il faut répéter ce nom.
J'aime les roses qui se meurent, les caprices inachevés, et le long regret qui demeure au bout des refus énervés. J'aime aussi les promesses lentes de paradis vertigineux qui, soulevant sa main ardente, raidissent le monsieur nerveux. Mais ma belle âme renversée sur l'alme sagesse irisée que les dieux éternels m'ont fait goûte la chasteté fervente, chère flirte, Bagdad, valse indolente, et rit de vos sexes défaits.
Sonnet moral sur les rimes d'un poème de mon amant impossible, poème lu par Cécile Cotte. Vous voyez l'écouter avec beaucoup de concentration.
Oui, là, je suis très heureuse qu'on entende la voix de Catherine Pozzi à travers cette très belle voix aussi d'ailleurs. Voilà, il faudrait peut-être, pour répondre à votre question de tout à l'heure, lire la poésie de Catherine Pozzi.
Par quoi faudrait-il commencer, selon vous ?
Il faut se laisser porter, faire comme Catherine, être à la fois grave, sérieux, absolu,
mais toujours
léger,
passionné,
drôle, et puis même un peu à la fois défaillant et puis extrêmement puissante. Hein, voilà, donc il faut se laisser aller, il faut prendre les poèmes comme ils viennent, soit dans l'ordre, soit dans le désordre. Tout son univers est là, et il y a une phrase d'elle que j'aime beaucoup. Elle pense à Paul Valéry quand elle écrit ça, mais je trouve que c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous guider, nous qui aimons les auteurs, les œuvres. Voilà ce qu'elle dit. Chacun allume sa lumière, il fait deux fois plus clair. Mmh. Voilà, c'est tout elle. Hein.
Ça pourrait être presque un mantra ou une citation bouddhique. Oui. Parce qu'il y avait ça aussi chez Catherine Pozzi. Il y avait la référence très présente avec les philosophies indiennes, hindoues par exemple.
Oui, c'est vrai qu'on est passé dessus tout à l'heure, mais elle a aussi toute cette culture, effectivement, du côté du bouddhisme, qui l'a portée encore vers un détachement. Et Dieu sait s'il a fallu qu'elle soit capable de détachement par rapport aux souffrances corporelles.
Et c'est encore la spiritualité qui la guide.
Exactement, oui. Et d'un autre côté, il faut jamais oublier à quel point elle adorait les robes. Elle adorait l'effet magique des perles qu'elle portait quand elle entrait dans le salon. Quand elle voit Nanoé avec une superbe montre à son bras.
C'est aussi toute son enfance qui revient probablement.
Voilà, c'est ça. C'est cet étincellement perpétuel à la fois de la pensée, mais aussi le sentiment de toute belle chose, qu'elle soit matérielle ou spirituelle.
Au fond, on pourrait peut-être dire de Catherine Pozzi, un peu comme le personnage Monsieur Test du célèbre roman de Valéry, « La bêtise n'est pas mon fort ». Peut-être qu'il a même pensé à elle au moment où il écrit ces mots.
Oui, c'est tout à fait possible. Hein. C'était sa muse, on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, justement, pour revenir sur le terme de muse, il faut pas considérer que Catherine Pozzi, elle n'était pas seulement une muse. Hein. Mmh. C'était vraiment une artiste, une écrivaine, une intellectuelle. Et le terme de muse est une fausse, est un faux compliment. Hein.
Et c'est le cas pour toutes les autres femmes
oui,
dont il est question
exactement.
Dans ce livre dont on va parler donc toute la semaine, femmes artistes et écrivaines cachées par des hommes qui leur étaient finalement très proches. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce livre, Hélène Morel-Indard, et comment vous est venue finalement cette envie de réunir plusieurs textes qui se retrouvent finalement dans une espèce d'actualité aujourd'hui ?
Oui, alors l'actualité m'a rattrapée. J'ai repoussé le plus tard possible le moment où il fallait que je m'attaque à ce pan de la littérature, toutes ces femmes dans l'ombre des grands hommes. Je l'ai repoussé, mais le sujet m'a rattrapé parce que voilà, par hasard, si j'ai travaillé pendant des années sur la question du plagiat,
bien
donc
sûr.
Du modèle, et pourquoi, hein, et sur la question de la paternité littéraire, de la filiation, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est sienne alors même qu'on n'est rien et qu'on écrit qu'à partir de ce qu'on a lu. Il fallait passer de la paternité littéraire à la maternité littéraire. Ben, voilà, c'est enfin arrivé.
Et ben nous, on va en parler justement jusqu'à jeudi. Merci beaucoup Hélène Morel-Indard, femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes, a donc paru il y a quelques semaines aux éditions Classique Garnier. Tout de suite, la chronique de Baptiste Ligier.
Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mmh.
Baptiste Ligier, rédacteur en chef du magazine Lire. Bonjour Baptiste.
Bonjour Mathieu.
Alors toute cette semaine, un exercice un peu différent par rapport à d'habitude pour nos chroniqueurs et donc pour vous en particulier, puisque on vous demande de parler de votre livre de l'année. Lequel a été le vôtre, Baptiste?
Ah bah alors, ce qu'on tente de déterminer son livre de l'année, je précise livre de l'année et pas forcément meilleur livre, bah on a un peu l'impression d'être dans la peau des jurés Goncourt en 32, lorsqu'ils ont sacré les loups de Guimazine face au voyage au bout de la nuit de Céline. Vous voyez ce genre de peur, en quelque sorte, de passer à côté d'un ouvrage essentiel. Sur quels critères se baser, au fond, quand on n'a pas le recul historique nécessaire? L'enthousiasme médiatique, critique, le côté événementiel de la parution d'un ouvrage, son accueil public? Alors, naturellement, nous viennent comme des repères de l'année. Hors de la question de la valeur littéraire, quelques titres, Sérotonine de Houellebecq, White de Bret Easton Ellis, ou bien encore Encre sympathique de Modiano. Mais si, en fin de compte, la véritable sensation de 2019 se trouvait ailleurs, à savoir dans une grosse fresque de science-fiction française, s'il vous plaît. Avec une presse absolument dithyrambique et un succès inattendu en librairie pour un tel ovni, plus de 100 000 exemplaires depuis sa parution en avril, Les Furtifs d'Alain Damasio est peut-être in fine le meilleur instantané de la vie littéraire et éditoriale de 2019.
Alors rappelez-nous justement, qui est Alain Damasio?
Il est l'auteur d'un roman absolument culte, La Horde du Contrevent, paru au début des années 2000 et qui s'est écoulé au fil des ans à plus de 400 000 exemplaires, ce qu'on a tendance à oublier. C'est d'ailleurs un titre qui a su toucher un public particulièrement jeune et qui attendait avec impatience le nouveau Damasio. Il a alors fallu, disons, une quinzaine d'années à cet écrivain plutôt discret pour mener à bien son nouveau projet de près de 700 pages, qui, à vrai dire, n'a pas vraiment le profil du best-seller formaté, avec ses inventions langagières, ses audaces narratives, ses références philosophiques comme Deleuze, Sloterdijk. Nous sommes loin des têtes de gondole habituelles des littératures de l'imaginaire. Et pourtant, Damasio fascine, passionne, intrigue, enthousiasme. Peut-être parce qu'il a une haute idée non seulement de son art, mais aussi de ses lecteurs.
Alors dites-en nous plus, qu'y a-t-il dans ces furtifs?
Ces furtifs, ce sont des créatures difficilement descriptibles, invisibles à l'œil nu, qui se déplacent dans les angles morts et qui peuvent se métamorphoser. Les hommes, alors, nous sommes dans un futur proche, cherchent coûte que coûte à les chasser, à l'image de Lorca, un intello plutôt anard, qui a opté pour le clan de l'ordre désormais, à savoir la brigade du récif. Cet individu, d'ailleurs, a bien une raison légitime, sa fille, Tishka, s'est mystérieusement volatilisée. Il tient pour responsable ces fameux furtifs de cet événement qui le ronge. Il va alors se rapprocher de la mère de leur fille pour retrouver la chair de sa chair. L'enquête est donc lancée dans cet univers qui ressemble vraiment au nôtre, mais où les pays ont fait faillite et où les noms de villes sont vendus à des multinationales. Par exemple, Paris est vendu à LVMH ou Orange, à la compagnie Orange,
oui,
évidemment.
Oui, du coup, ça pose pas trop de problèmes. En deux mots, pourquoi est-ce que c'est pour vous le livre de l'année?
Derrière ce qui pourrait être, disons, l'équivalent littéraire d'une bonne série B d'anticipation, Alain Damasio livre une œuvre monde d'une richesse absolument inouïe, sans jamais oublier pour le lecteur le plaisir du roman feuilleton. À travers cette parabole futuriste, il brosse un portrait terrifiant d'une société sécuritaire refusant la différence et ayant établi la surveillance en norme. Les Furtifs, c'est également une attaque en règle d'un système ultralibéral qui broie les individus. Et surtout, ce livre évite toute lourdeur grâce à l'exercice du roman de genre et son côté, décalé. L'écrivain nous interroge par ailleurs sur les vertus de la création, sur le sens de la subversion, sur la notion de mouvement et plus généralement sur la liberté. Cette dernière, d'ailleurs, est également à l'honneur de la forme du livre, sans cesse étonnant dans son intrigue, avec sa langue particulièrement inventive. On pense par instant à Antoine Volodine, qui est un écrivain un petit peu différent, et ses envolées poétiques aussi originales qu'emballantes. On pense notamment aussi à sa bande originale. Il a composé avec le guitariste Yann Péchin une véritable musique du livre. La littérature, d'ailleurs, est une affaire de musicalité, d'ondes et de sensations. Et merci donc à Alain Damasio de nous le rappeler. Voici aussi pourquoi Les Furtifs est, je l'assume, mon livre de l'année.
Merci Baptiste Ligier. Nos auditeurs peuvent retrouver un entretien avec Alain Damasio dans le dernier numéro de Lire, actuellement en kiosque. C'était la Compagnie des œuvres. Merci à Anne, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Didier Pinault et Adèle Caglar, sans qui rien ne serait possible. Demain, on prend rendez-vous avec une autre femme cachée par un grand homme, entre guillemets, en l'occurrence Louise Collet, qui est dans l'ombre de Flaubert. Dans un instant, les sciences.